Brouillon de lecture. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission mensuelle de lecture à deux voix. Celle de Catherine, bonjour Catherine.
Bonjour.
Celle d'Hervé, bonjour Hervé.
Bonjour.
Qui vous interprète à leur tour des extraits de romans ou des nouvelles pour vous mettre l'eau à la bouche et vous donner envie de dévorer à votre tour le livre qu'ils vous ont proposé.
Confortablement installé dans votre canapé.
C'est vrai. Avec aujourd'hui, c'est Hervé qui va lire.
Oui.
Et si j'osais ce mauvais jeu de mots, c'est un livre de dingue.
Ah oui, c'est un mauvais jeu de mots. En effet, effectivement, le titre du livre, c'est « Le bal des folles » de Victoria Mas.
C'est pour ça que je ne m'en mêle pas, hein. Je ne me sens pas concernée.
Par les jeux de mots pourris que l'on peut sortir.
Tu veux que je dise quelques mots sur le...
J'allais t'en prier.
Eh bien voilà, voilà. Alors, tiens, je vais dire une première chose, c'est que c'est un premier roman. C'est un premier roman qui est sorti en 2019, donc assez récemment. Je dis ça parce que... Il pourrait être dans le Robles.
On verra.
Il n'y sera pas, donc...
S'il est de la rentrée 19, si. On prend les romans à partir du mois de février 2019.
Ah oui, donc peut-être qu'il y sera. Ah ben dans ces cas-là, j'aurai un livre d'avance. Oui.
Oh, tu seras fort.
Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de cette...
La probabilité qu'il y soit est assez faible quand même. Le nombre de premiers romans est assez
important. Oui, sur 100-150 premiers romans, il y en a 6 de sélectionnés, voilà. La proportion est faite.
En même temps, c'est un livre qui a déjà obtenu un ou deux prix, donc qui a fait le buzz, comme on dit.
Et
donc, en français, oui, bien sûr. Français. Victoria Mas est une franco-américaine. C'est la fille de Jeanne Mas. Ça te dit quelque chose, Jeanne Mas ?
Jeanne Mas, artiste de variété bien connue dans les années 80-90.
Exactement.
Le rouge et le noir.
Tout à fait.
Non, le rouge et le noir, c'était juste un...
C'était, le rouge et le noir, ça a fait un grand blanc.
Bravo, bravo. Non, c'était une allusion à un autre livre, mais bon, c'est peut-être un peu trop subtil. J'efface.
Ah, ce roman a déjà obtenu le prix Renaudot des lycéens. Donc, et puis, le résumé, c'est le
non, pitch, non, pas un mot français.
Le pitch.
Le pitch.
Oh non, pas une horreur pareille, s'il te plaît. Oh non, pitié. On fait pas de teaser, il y a pas de pitch. Non, on est encore une émission littéraire. Non. Ça s'appelait une bande-annonce autrefois et tout le monde comprenait, hein. C'est la même chose.
Oui, c'est vrai.
In French.
Ah oui, nous, on propose des teasers maintenant.
Mais non, vous dire ça. Une bande-annonce. Essayez de résister. La résistance est une force. Non, mais c'est pas possible.
C'est bon.
Et le thème de ce roman, eh bien, comme tu le disais si gentiment tout à l'heure, Dominique, c'est effectivement le cadre de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, mais à la fin du 19e siècle. Et donc le roman se passe effectivement principalement à l'intérieur de l'hôpital et qui parle des jeunes femmes qui sont internées. Paris, février 1885. La neige tombe depuis 3 jours. Dans l'espace, les flocons imitent la forme de rideaux de perles. Une couche blanche et craquante s'est allongée sur les trottoirs et les jardins, s'accrochant aux fourrures et au cuir des bottines qui la foulent. Autour de la table du souper, les clairies ne font plus attention aux flocons qui tombent paisiblement derrière les portes-fenêtres et atterrissent sur le tapis blanc du boulevard Haussmann. Les 5 membres de la famille, concentrés sur leur assiette, découpent la viande rouge que le domestique vient de servir. Au-dessus des têtes, des moulures habillent le plafond. Autour, des meubles et des tableaux, des objets en marbre et en bronze, des lustres et des bougeoirs composent cet appartement bourgeois parisien. C'est un début de soirée habituel. Les couverts tintent contre les assiettes en porcelaine. Les pieds de chaise craquent sous les mouvements de leurs occupants. Le feu crépite dans la cheminée que le domestique vient entretenir au pic en fer de temps à autre. Dans le silence, la voix patriarcale finit par s'élever. J'ai reçu Fauchon aujourd'hui. L'héritage de sa mère l'a peu satisfait. Il espérait obtenir le château en Vendée. Mais c'est sa sœur qui en a hérité. Sa mère ne lui cède que l'appartement rue de Rivoli, maigre héritage en consolation. Le père n'a pas levé les yeux de son assiette. Maintenant qu'il a parlé, les autres peuvent prendre la parole. Eugénie jette un coup d'œil à son frère face à elle, qui maintient la tête penchée sur son plat. Elle saisit l'opportunité. Il se dit à Paris que Victor Hugo est très affaibli. En sais-tu quelque chose, Théophile ? Son frère lève les yeux étonnés vers elle en mastiquant sa viande. « Pas plus que toi. » Le père regarde à son tour sa fille. Il ne remarque pas ses yeux pétillants d'ironie. « Où entends-tu cela à Paris ? Auprès des marchands de journaux, dans les cafés ? Je n'apprécie pas que tu traînes dans les cafés, ça fait mauvais genre. Je m'y rends seulement pour lire. Quand bien même, et il ne mentionne pas le nom de cet homme dans cette maison. Il est tout sauf un républicain, contrairement à ce que certains peuvent défendre. » La jeune fille de 19 ans retient son sourire. Si elle ne provoquait pas son père, celui-ci ne daignerait même pas lui adresser un regard. Elle sait que son existence n'intéressera le patriarche que lorsqu'un parti de bonne famille, c'est-à-dire une famille d'avocats ou de notaires, comme la leur, souhaitera l'épouser. Ce sera alors la seule valeur qu'elle aura aux yeux de son père, la valeur d'épouse. Eugénie imagine sa colère lorsqu'elle lui avouera qu'elle ne souhaite pas se marier. Sa décision est prise depuis longtemps. Loin d'elle, une vie comme celle de sa mère, assise à sa droite, une vie confinée entre les murs d'un appartement bourgeois, une vie soumise aux horaires et aux décisions d'un homme, une vie sans ambition ni passion, une vie sans voir autre chose que son reflet dans le miroir, à supposer qu'elle s'y voit encore. Une vie sans but autre que de faire des enfants. Une vie avec pour seule préoccupation de choisir sa toilette du jour. Voilà, c'est tout ce qu'elle ne souhaite pas. Autrement, elle souhaite tout le reste. Le père Cléry regarde Théophile, son fils, qui mange toujours avec appétit. Lorsqu'il s'adresse à son fils aîné, le ton paternel s'adoucit. « Théophile, as-tu pu étudier les nouveaux ouvrages que je t'ai donnés ?» Pas encore, j'ai un peu de lecture en retard, je m'y mets dès le mois de mars. Tu commences comme Claire à l'étude dans 3 mois, je veux que tu aies fini de réviser tout ce que tu as. Ce sera fait. Tant que j'y pense, je serai absent pour demain après-midi. Je me rends à un salon débat, il y aura le fils Fauchon d'ailleurs. Ne mentionne pas l'héritage de son père au risque de l'accabler, mais certainement va faire travailler ton esprit. La France a besoin d'une jeunesse réfléchie. Eugénie lève le visage vers son père. « Lorsque vous évoquez une jeunesse réfléchie, vous parlez des garçons et des filles, n'est-ce pas, papa ?»« Je te l'ai déjà dit, la place des femmes n'est pas en public. » Il est triste d'imaginer un Paris fait seulement d'hommes. « Cesse, Eugénie. Les hommes sont trop sérieux, ils ne savent pas s'amuser. Les femmes savent être sérieuses, mais elles savent rire également. Ne me contredis pas. » « Je ne vous contredis pas, nous discutons. C'est justement ce que vous encouragez Théophile à ses amis à faire demain. Suffit ! Je te l'ai déjà dit, je refuse l'insolence sous mon toit. Tu peux quitter la table. » Le père a fait claquer ses couverts contre l'assiette et défie Eugénie du regard. Ses nerfs à vif attisent les poils de ses favoris et de l'épaisse moustache qui dessine son visage. Son front et ses tempes ont rougi. Ce soir, Eugénie aura au moins réussi à susciter une émotion. La jeune femme pose ses couverts au creux de l'assiette et sa serviette sur la table. Elle se lève, salue l'assemblée d'un mouvement de tête sous le regard accablé de sa mère et amusé de sa grand-mère, puis quitte la salle à manger non mécontente de ce remue-ménage. Théophile sort de la porte cochère de l'immeuble et se dirige vers le fiacre qui attend le long du trottoir. Ses boucles rousses dépassent de son haut de forme. Il redresse son col jusqu'au menton, enfile à la hâte ses gants en cuir et ouvre la portière. D'une main, il aide Eugénie à monter. Un long manteau noir aux manches évasées et surmonté d'une capuche la protège. Deux plumes d'oie sont plantées dans son chignon. Elle a peu d'affection pour les petits chapeaux en pointe fleurie qui se côtoient actuellement dans la capitale. Théophile s'approche du cocher. 9 boulevard Malesherbes. Et s'il vous plaît, Louis, si mon père vous interroge, j'étais seul. Le cocher mime une bouche cousue par-dessus ses lèvres et Théophile s'installe à son tour dans la voiture près de sa sœur. « Tu es toujours contrarié, mon frère ?»«
Tu es contrariante, Eugénie. »
Peu après le déjeuner, un repas toujours plus serein en l'absence du père, Théophile était allé dans sa chambre faire sa sieste quotidienne de 20 minutes, avant de se préparer pour sortir. Il achevait de placer son haut de forme devant son miroir lorsqu'on avait frappé à sa porte. 4 coups, ceux de sa sœur. « Entre !» Eugénie avait ouvert la porte, elle était vêtue et coiffée pour la ville. « Tu te rends encore au café ?»
Papa va désapprouver.
Non, je vais au salon des bains avec toi.
Certainement pas.
Pourquoi cela ?
Ben, tu n'es pas invité.
Alors invite-moi. Il n'y a que des hommes.
Que c'est triste.
Tu vois, tu n'as pas envie d'y aller.
Je souhaiterais voir comment c'est juste une fois.
Nous sommes dans un salon, nous fumons en buvant du café et du whisky et nous prétendons philosophie.
Si c'est si rébarbatif que ce que tu le décris, pourquoi t'y rends-tu ?
C'est une bonne question, la convention sociale, je suppose.
Laisse-moi venir.
Je n'ai aucune intention de m'attirer les foudres de papa quand il l'apprendra.
Tu aurais dû y penser avant d'aller fricoter avec la Lisette de la rue Joubert.
Théophile était resté pétrifié et avait fixé longuement sa sœur, qui lui avait souri.
Je t'attends dans l'entrée.
Le salon bourgeois est semblable au leur. Suspendu au plafond, un lustre en cristal domine la pièce. Circulant entre les invités, un domestique propose des verres de whisky disposés sur un plateau en argent. Un autre sert les cafés dans des tasses en porcelaine. Debout près de la cheminée, ou assis sur des canapés du siècle dernier, des jeunes hommes discutent à voix basse et fument cigares ou cigarettes. La nouvelle élite parisienne, bien pensante et conformiste, sur les visages, se lie la fierté d'être née dans la famille qu'il faut. La nonchalance de leurs gestes révèle le privilège de n'avoir jamais eu à connaître le labeur. Pour eux, le mot « valeur » ne prend son sens qu'au regard des tableaux qui ornent les murs et au statut social dont ils jouissent sans avoir œuvré pour l'acquérir. Un jeune homme au sourire ironique s'approche de Théophile. Eugénie est demeurée en retrait et observe l'assemblée mondaine. « Cléry, j'ignorais que tu serais en charmante compagnie aujourd'hui. » Théophile rougit dans ses boucles rousses. « Fauchon, je te présente ma sœur, Eugénie. »«
Ta sœur ? Vous ne vous ressemblez point. Enchanté, Eugénie. »
Fauchon s'avance pour saisir la main gantée. Son regard appuyé suscite chez la jeune femme un léger dégoût. Il se tourne vers Théophile. Ton père a-t-il mentionné l'héritage de grand-mère ? J'ai appris, oui. Papa est très vexé, lui qui ne parlait que du château en Vendée. Mais je devrais être le plus vexé d'entre tous. La vieille femme ne m'a rien laissé, son unique petit-fils. Allons. Eugénie, vous buvez ? Un café sans sucre. Vos petites plumes d'oie sur la tête sont amusantes. Vous allez égayer notre salon aujourd'hui. Il vous arrive donc de rire. Elle est insolente en plus. Formidable. Dans ces lieux feutrés, les heures passent avec une lenteur accablante. Les conversations des petits groupes se mélangent pour ne devenir qu'un écho de voix graves et monotones, entrecoupées de tintements de verres et de tasses. Les vapeurs de tabac ont formé un voile velouté et transparent qui plane au-dessus des têtes. L'alcool a ramolli les corps déjà paresseux. Eugénie, assise sur le velours moelleux d'un fauteuil, cache des bâillements derrière sa main. Son frère n'avait pas menti. Seule la convention sociale peut expliquer l'intérêt de ces salons. Les débats sont moins des débats que des discours convenus, des idées apprises par cœur que ces supposés esprits instruits récitent sagement. Il s'y parle politique, évidemment. La colonisation, le président Grévy, les lois Jules Ferry. Un peu de littérature et théâtre aussi, mais sans fond. Ces deux domaines relevant à leurs yeux plus du divertissement que de l'enrichissement intellectuel. Eugénie entend sans véritablement écouter. Elle n'est pas tentée de bousculer un peu ce monde aux pensées étriquées, même si parfois l'envie lui prend d'intervenir, de rebondir sur une idée, de pointer les contradictions de certains propos. Mais elle connaît d'avance la réponse qu'elle susciterait. Ces hommes la dévisageraient, moqueraient sa prise de parole et balayeraient d'un revers de main son intervention, la reléguant à la place qu'elle se doit de garder. Les esprits les plus fiers ne veulent pas qu'on vienne les ébranler, surtout pas une femme. Ces hommes-là n'estiment les femmes que lorsque leur plastique est à leur goût. Quant à celles capables de nuire à leur virilité, ils se moquent d'elles, ou mieux encore, s'en débarrassent. Eugénie se souvient de ce fait divers qui remonte à une trentaine d'années. Une prénommée Ernestine aspirait à s'émanciper de son rôle d'épouse en prenant des cours de cuisine auprès de son cousin chef cuisinier. Espérant elle-même un jour être derrière les fourneaux d'une brasserie. Son mari, ébranlé dans son rôle dominant, l'avait fait interner à la Salpêtrière. Une quarantenaire s'affichant au bras d'un jeune homme de 20 ans, son cadet, interné pour débauche. En même temps qu'une jeune veuve internée par sa belle-mère, car trop mélancolique depuis la mort de son époux. Un dépotoir pour toutes celles nuisant à l'ordre public. Un asile pour toutes celles dont la sensibilité ne répondait pas aux attentes. Une prison pour toutes celles coupables d'avoir une opinion. Depuis l'arrivée de Charcot, il y a 20 ans, il se dit que l'hôpital de la Salpêtrière a changé, que seuls les véritables hystériques y sont internés. Malgré ces allégations, le doute subsiste. 20 ans n'est rien pour changer les mentalités ancrées dans une société dominée par les pères et les époux. Aucune femme n'a jamais la totale certitude que ses propos, son individualité, ses aspirations ne la conduiront pas à ces murs redoutés du 13e arrondissement. Alors elles font attention. Même Eugénie, dans son audace, sait que toutes les lignes ne sont pas à franchir, surtout pas au sein d'un salon rempli d'hommes influents. C'est non seulement absurde, mais c'est dangereux. Avez-vous lu le livre des esprits ? Pourquoi irions-nous perdre notre temps avec ces fables ? Pour bien critiquer, il faut s'informer. Je l'ai lu et je vous assure que certains propos blessent profondément mes plus intimes croyances chrétiennes. Qu'as-tu à faire des dires d'un homme qui prétend communiquer avec les défunts ? Il ose affirmer qu'il n'existe ni paradis ni enfer. Il minimise l'interruption de grossesse, prétextant qu'un fœtus est dénué d'âme. Blasphème ! De telles pensées mériteraient la corde. Quel est le nom de cet homme dont vous parlez ? Eugénie s'est redressée sur son fauteuil, le cou tendu vers l'assemblée. Elle écoute pour la première fois depuis son arrivée ce qui est en train de se dire. Elle s'est levée de son fauteuil. Les hommes se sont retournés et la dévisagent, surpris d'entendre cette jeune fille, jusqu'ici muette et taciturne, s'exprimer enfin. Théophile se raidit d'appréhension. Sa sœur est imprévisible et ses prises de parole ne sont jamais sans remous. Debout derrière un canapé, cigare en main, Fauchon esquisse un sourire. « La fille aux plumes d'oie parle enfin !» Pourquoi demandes-tu ? Tu ne serais pas spirite, j'espère. Quel est son nom, je vous prie ? Allan Kardec. Et pourquoi ? Il t'intéresse ? Vous le décriez tous avec tant d'ardeur. Quelqu'un qui suscite autant de passion doit bien avoir vu juste quelque part. Ou bien il s'est grossièrement trompé. J'en jugerai moi-même. Théophile se faufile entre les invités et s'approche d'Eugénie. Il la saisit par le bras et lui parle à voix basse. « Si tu ne veux pas te faire crucifier sur place, je te conseille de partir maintenant. » Le regard de son frère est moins autoritaire qu'inquiet. Eugénie sent les visages des approbateurs la scruter de la tête aux pieds. Elle fait un signe de tête à son frère, puis quitte le salon en saluant l'assemblée. Pour la deuxième fois en deux jours, sa sortie se fait dans un silence de plomb.
J'ai l'impression, Hervé, que cette petite Eugénie va filer un mauvais coton.
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en fait, c'est ce qui fait la trame de ce roman. Car on va maintenant découvrir l'hôpital La Salpêtrière. Alors, un petit mot sur La Salpêtrière. C'est un hôpital qui est situé juste à côté de la gare d'Austerlitz, juste en face des Jardins des Plantes. À l'origine, c'était un arsenal militaire construit par Louis XIII au XVIIe siècle. Puis transformé par Louis XIV dans les années 1660, en partie en hôpital pour les pauvres et en partie en prison. Mais peut-être qu'un hôpital pour les pauvres et en partie une prison, c'est un petit peu la même chose, non ? D'autant que dans cet hôpital, on y rentre de bien curieuses façons. Le mois de mars est là et les premiers rayons de soleil pénètrent dans le spacieux salon. Le bois verni des meubles, les teintes vives des tapisseries, les dorures des tableaux semblent reprendre vie sous cette lumière douce et bienvenue. À Paris, la neige a presque fondu. On en trouve encore des petits tas sur les pelouses des parcs et le long des contre-allées. La ville semble allégée et les visages parisiens retrouvent la gaieté sous le ciel et les avenues dégagées. Même le père Cléry, traditionnellement solennel, affiche ce matin une humeur assoupie. Je souhaiterais profiter de ce temps ensoleillé pour nous rendre à Meudon. Je dois y récupérer des affaires. Qu'en dis-tu, Théophile ?
Certes.
Et toi, Eugénie ?
Eugénie, surprise par cette interpellation cordiale, soulève la tête de sa tasse de café. La fille et la famille est réunie autour du petit déjeuner. Sa mère beurre une tartine en silence. Sa grand-mère boit un thé noir qu'elle accompagne d'un sablé. Son père déguste une omelette. Seul, Théophile ne touche pas à ce qui est servi à table. Il garde les yeux baissés vers sa tasse de café froid, les mains sur les cuisses et la mâchoire crispée. Derrière lui, la fenêtre laisse pénétrer un rayon de soleil qui empourpre ses boucles rousses. Eugénie interroge son père du regard. Ce n'est pas une habitude du chef de maison d'inclure sa fille dans les activités extérieures, celle-ci étant réservée à Théophile. Pourtant, en bout de table, son père la regarde avec tranquillité. Peut-être que l'absence de conflit ces derniers temps a contribué à adoucir son humeur. Peut-être que, maintenant qu'il sent sa fille devenue docile depuis quelque temps, tel qu'il l'a toujours souhaité, il condescend à lui parler. « Une promenade au grand air te fera le plus grand bien, Eugénie. » En face, sa grand-mère l'encourage d'un hochement de tête. Son index et son pouce soulèvent l'anse de la tasse en porcelaine. Clairement, il ne lui est pas possible de refuser la proposition paternelle en expliquant qu'elle doit se rendre dans une librairie ésotérique. « Avec plaisir, papa. » Eugénie reprend une gorgée de café. L'humeur positive de son père la surprend et lui fait plaisir. Elle ne remarque pas à droite sa mère qui essuie du coin de sa serviette une larme qui coule sur sa joue. Le fiacre longe la Seine.
Sur les routes, les sabots des chevaux craquent sur le pavé en cadence, longeant les trottoirs. Les hauts de forme et les chapeaux fleuris se défient au-dessus des têtes passantes. Les silhouettes de couples, encore drapées dans de chauds manteaux, flânent sur les quais et les ponts qui couronnent le fleuve. Derrière la vitre, Eugénie observe la ville reprendre son activité. Elle se sent apaisée. Le ciel dégagé qui surplombe les toits gris-bleus, cette sortie impromptue avec son frère et son père, la perspective de cette nouvelle vie qui l'attend de l'autre côté de la rive, berce doucement la route. Le visage tourné vers la fenêtre, elle ne remarque pas l'air soucieux de son frère, assis à sa droite. Théophile regarde lui aussi la ville. Chaque quartier qu'il traverse les rapproche un peu plus de leur destination. À gauche, l'hôtel de ville vient d'être dépassé. Il distingue maintenant l'île Saint-Louis. En face, une fois que le pont de Sully sera traversé, le véhicule longera le jardin des plantes et sa ménagerie d'animaux sauvages. Puis ils seront arrivés. Théophile ramène son poing fermé à sa bouche et jette un coup d'œil à son père. Assis face aux deux enfants, les mains posées sur le pommeau d'une canne qu'il tient droite entre ses jambes, l'homme garde le visage baissé. Il sent le regard de son fils l'interpeller, mais ne souhaite pas y répondre. Si Eugénie était un instant sortie de ses réflexions, elle aurait remarqué l'atmosphère austère qui pèse depuis le départ dans l'espace étroit et feutré. Elle aurait surpris le visage sombre de son frère et la raideur de son père. Et elle se serait étonnée qu'un simple déplacement en dehors de Paris suscite une humeur si tendue. Elle aurait aussi remarqué que Louis ne suivait pas la route habituelle, qu'au lieu de remonter vers le jardin du Luxembourg, il longeait désormais le jardin des plantes, vers le boulevard de l'hôpital. C'est lorsque le fiacre s'arrête soudainement que Eugénie sort de sa torpeur. Elle se tourne vers son père et son frère et surprend leur regard inhabituel, un mélange de gravité et d'inquiétude. La voix de son père résonne avant qu'elle n'ait eu le temps de parler. « Sortons maintenant !» Troublée, Eugénie s'exécute, suivie de son frère. Le pied au sol, elle lève les yeux vers l'édifice imposant devant lequel ils se sont arrêtés. De part et d'autre de l'entrée ouverte et voûtée, deux colonnes en pierre s'élèvent sur la façade. Au-dessus, gravées dans la pierre, « Liberté, égalité, fraternité ». Au centre, des lettres noires, apposées sur une surface blanche, en capitale, « Hôpital de la Salpêtrière ». Sous l'arcade, on distingue au loin, tout au bout d'une allée, pavée, un monument plus écrasant encore, semblant engloutir tout l'espace autour de lui, au-dessus duquel s'élève un dôme ébène et solennel. Un haut-le-cœur saisit Eugénie. Sans qu'elle ait le temps de se retourner, elle sent la main de son père se refermer sur son bras. « Ne discute pas, ma fille. »« Mon père, je ne comprends pas. » Ta grand-mère m'a tout raconté. Un vertige saisit la jeune femme. Ses jambes cèdent sous son poids et elle sent une deuxième main, une main plus tendre, celle de son frère aîné, saisir son autre bras. Elle relève le visage vers son père, ouvre la bouche pour parler, mais n'y parvient pas. Son père la regarde avec calme et ce calme la terrifie plus que la virulence dont il a toujours usé à son égard. N'en veux pas à ta grand-mère, elle ne pouvait pas garder ce secret pour elle. Je dis vrai, je vous le jure. Vrai ou faux, importe peu, les choses dont tu lui as parlé n'ont pas leur place dans notre maison. Je vous en supplie, mettez-moi à la porte, envoyez-moi en Angleterre, n'importe où, mais pas ici. Tu es une clérie, où que tu ailles, tu porteras notre nom, il n'y a qu'ici que tu ne le déshonoreras pas. Papa, suffit maintenant. Eugénie tourne ses yeux effrayés vers son frère. Sous ses cheveux roux, son visage n'a jamais été aussi pâle. Il serre la mâchoire et n'ose regarder sa sœur. « Théophile ?»« Pardon, Eugénie. » Derrière lui, posté sur la petite place pavée, Eugénie aperçoit Louis. Assis à la place du cocher, la tête baissée, le domestique ne regarde pas la scène. La jeune femme se sent tirée vers l'enceinte de l'hôpital. Elle voudrait résister et n'y parvient pas. Sachant la lutte inutile, son corps a déjà renoncé. Ses jambes l'abandonnent à nouveau et les deux hommes redoublent d'efforts pour la porter. Dans un dernier élan, ses deux mains s'accrochent au par-dessus de son père et de son frère, et c'est d'une voix affaiblie, une voix à qui on n'a pas retiré tout espoir, qu'elle s'exprime « Pas ici, je vous en supplie, pas ici !» Eugénie se laisse désormais traîner, le long de l'allée centrale bordée d'arbres sans feuilles, ses bottines cognent contre les pavés, sa tête est penchée en arrière, le chapeau à fleurs qu'elle avait choisi pour l'occasion est tombé au sol. Le visage face au ciel bleu, elle sent les rayons du soleil s'éblouir et caresser doucement ses joues. Dans un bureau modeste, François Cléry, assis sur une chaise, signe des papiers à la plume. Son haut de forme est posé sur la table. Une unique fenêtre, condamnée depuis plusieurs années, laisse pénétrer la lumière du jour. Au creux du faisceau qui traverse la pièce, de la vitre au carrelage, de la poussière tourne sur elle-même. Des moutons blancs et gris se sont entassés sous le bureau et l'armoire ouverte d'où débordent des centaines de papiers et dossiers. Une odeur de bois pourri et d'humidité habite la pièce. Qu'attendez-vous que nous fassions pour votre fille ? Geneviève est assise face à lui. Elle observe l'homme qui fait aujourd'hui interner sa fille. François Cléry cesse d'écrire. « Très sincèrement, je ne m'attends pas à ce qu'elle guérisse. Les idées mystiques ne se soignent pas. Votre fille a-t-elle déjà fait des crises ? Fièvre, évanouissement, contracture ? Non, elle est normale. Seulement, comme je vous l'ai dit, elle prétend voir des défunts. » Geneviève remarque que l'homme a sa main droite. Il pose la plume sur la feuille, glisse son bras sous la table et essuie sa paume sur le tissu de son pantalon. Les boutons de son costume semblent le serrer. Sous sa moustache poivre et sel, ses lèvres tremblent. Il est rare pour ce notaire réputé et imperturbable d'avoir à faire un effort pour maintenir sa contenance. Les murs de cet hôpital déstabilisent quiconque y pénètre, à commencer par celui qui vient y placer sa fille ou son épouse ou bien sa mère. Geneviève ne compte plus les hommes qu'elle a vus s'asseoir sur cette chaise. Ouvriers, fleuristes, professeurs, pharmaciens, marchands, pères, frères, époux. Sans leur initiative, la salpêtrière ne serait sans doute pas aussi peuplée. Certes, certaines femmes en ont déjà amené d'autres, mais la majorité des aliénés le furent par des hommes, ceux dont elle portait le nom. C'est bien le sort le plus malheureux. Sans mari, sans père, plus aucun soutien n'existe, plus aucune considération n'est accordée à son existence. Le père Cléry tend les papiers signés à Geneviève. Elle jette un coup d'œil au document, puis regarde l'homme. « Puis-je vous poser une question ?»« Je vous en prie. Pourquoi faire interner votre fille si vous n'attendez pas qu'on la soigne ? Nous ne sommes pas une prison, nous œuvrons à guérir nos patientes. » Le notaire réfléchit, il se lève de sa chaise et époussette son haut de forme d'un geste résolu. On ne converse pas avec les morts, sans que le diable y soit pour quelque chose. Je ne veux pas de cela dans ma maison. À mes yeux, ma fille n'existe plus.
La chaise de Van Gogh où tu ne t'assieds pas, les souliers de Vincent que tu ne chausses pas, l'oreille de ce mec qui ne t'écoute plus, ces corbeaux dans le blé d'une toile perdue. Je ne m'arrête plus quand je vois la folie. Je fais ses commissions, couche dans son lit. Les larmes de cet arbre inquiet dans la forêt, la chaise de Vincent, de quel bois elle était. Les moutons de la rue se cachent en cache-nez, les ouvriers changent de disque sans débrayer. Je ne m'arrête plus quand je vois la folie. Je fais ses commissions et couche dans son lit. Les pas de cet enfant dans l'enfer de la fac, son sexe et sa vertu, sa pilule et son trac. Quand le vertige la pénètre et la dépasse sous l'œil double et glacé d'un vieux miroir de passe, c'est à ce moment-là que je perds la folie. Et que je reste seul avec mes yeux de fou.
Oui, donc la pauvre petite Eugénie va devenir prisonnière, on peut le dire, hein, réellement prisonnière à l'intérieur de cet hôpital. Je vous avais dit tout à l'heure, prison ou hôpital, c'est un peu pareil. Alors tout de même, au XIXe siècle, l'hôpital sera entièrement reconstruit pour devenir un vrai hôpital. Et dans les années 1880, le docteur Charcot, dont il est question, y fera même des recherches sur l'hypnose. Le 3 mars 1885. Louise, il est l'heure. D'une main, Geneviève retire la couverture qui cache le corps endormi de l'adolescente recroquevillée sur le matelas étroit. Ses cheveux sombres et épais couvrent la surface de l'oreiller et une partie de son visage, la bouche entrouverte, Louise ronfle doucement. Elle n'entend pas autour d'elle, dans le dortoir, les autres femmes déjà debout. Entre les rangées des lits de fer, les silhouettes féminines s'étirent, remontent leurs cheveux en chignon, boutonnent leurs robes ébène par-dessus leurs chemises de nuit transparentes, puis marchent d'un pas monotone vers le réfectoire, sous l'œil attentif des infirmières. De timides rayons de soleil pénètrent par les fenêtres embuées. Louise est la dernière levée. Chaque matin, une interne ou une aliénée vient la tirer de son sommeil. L'adolescente accueille le crépuscule avec soulagement et se laisse tomber dans des nuits si profondes qu'elle ne rêve pas. Dormir permet de ne plus se préoccuper de ce qui s'est passé et de ne pas s'inquiéter de ce qui est à venir. Dormir est son seul moment de répit depuis les événements d'il y a 3 ans qui l'ont conduite ici. « Debout, Louise, on t'attend. » Geneviève secoue le bras de la jeune fille qui finit par ouvrir un œil. Elle s'étonne d'abord de voir celle que les aliénés ont surnommée « l'ancienne » attendre au pied de son lit. Puis elle s'exclame « J'ai cours ! Prépare-toi, tu as assez dormi. » « Oui. » La jeune fille saute à pieds joints du lit et saisit sur une chaise sa robe en lainage noir. Geneviève fait un pas de côté et l'observe. Son œil s'attarde sur les gestes hâtifs, les mouvements de tête incertains, la respiration rapide. Louise a fait une nouvelle crise hier. Il n'est pas question qu'elle en fasse une autre avant le cours d'aujourd'hui. L'adolescente s'empresse de boutonner le col de sa robe et se tourne vers l'intendante. Perpétuellement droite dans sa robe de service blanche, les cheveux blonds relevés en chignon, Geneviève l'intimide. Avec les années, Louise a dû apprendre à composer avec la rigidité de cette dernière. On ne peut lui reprocher d'être injuste ou malveillante. Simplement, elle n'inspire pas l'affection. « Comme ceci, Madame Geneviève, lâche tes cheveux, le docteur préfère. » Louise remonte ses bras arrondis vers son chignon, fait à la hâte, et s'exécute. Elle est adolescente malgré elle. À 16 ans, son enthousiasme est enfantin. Le corps a grandi trop vite. La poitrine et les hanches, apparues à 12 ans, ont manqué de la prévenir des conséquences de cette soudaine volupté. L'innocence a un peu quitté les yeux, mais pas entièrement. C'est ce qui fait qu'on peut encore espérer le meilleur pour elle. J'ai le trac. Laisse-toi faire et ça se passera bien. Oui. Les deux femmes traversent un couloir de l'hôpital. La lumière matinale de mars entre par les fenêtres et vient se réfléchir sur le carrelage. Une lumière douce, annonciatrice du printemps et du bal de la mi-carême. Une lumière qui donne envie de sourire et d'espérer qu'on sortira bientôt d'ici. Geneviève sent Louise nerveuse. L'adolescente marche tête baissée, les bras tendus le long du corps. Le souffle rapide. Les filles du service sont toujours anxieuses de rencontrer Charcot en personne, d'autant plus lorsqu'elles sont désignées pour participer à une séance. C'est une responsabilité qui les dépasse, une mise en lumière qui les trouble, un intérêt si peu familier pour ces femmes que la vie n'a jamais mise en avant, qu'elles en perdent presque pied à nouveau. Quelques couloirs et portes battantes plus tard, elles entrent dans la loge attenante à l'auditorium. Une poignée de médecins et d'internes masculins attendent. Carnet et plumes en main, moustaches chatouillant leurs lèvres supérieures, corps stricts dans leurs costumes noirs et leurs blouses blanches, ils se tournent en même temps vers le sujet d'étude du jour. Le œil médical décortique Louise. Il semble voir à travers sa robe. Ses regards voyeurs finissent par faire baisser les paupières de la jeune fille. Seul un visage lui est familier, Babinski. L'assistant du docteur avance vers Geneviève. La salle est bientôt remplie. Nous allons commencer d'ici 10 minutes. Avez-vous besoin de quelque chose en particulier pour Louise ? Babinski regarde l'aliéné de haut en bas. Elle fera l'affaire comme ça. Geneviève hoche la tête et s'apprête à quitter la pièce. Louise marque un pas anxieux derrière elle. « Vous revenez me chercher, Madame Geneviève, n'est-ce pas ?»« Comme chaque fois, Louise. » En coulisses de la scène, Geneviève observe l'auditorium. Un écho de voix grave monte des bancs en bois et emplit la salle. Celle-ci ressemble moins à une pièce d'hôpital qu'à un musée, voire à un cabinet de curiosité. Peintures et gravures habillent murs et plafonds. On y admire des anatomies et des corps, des scènes où se mélangent des anonymes, nus ou vêtus, inquiets ou perdus. À proximité des bancs, de lourdes armoires que le temps fait craquer affichent derrière leurs portes vitrées tout ce qu'un hôpital peut garder en souvenir. Crânes, tibias, bassins, bocaux par douzaines, bustes en pierre et pêle-mêle d'instruments. Déjà par son enveloppe, cette salle fait au spectateur la promesse d'un moment singulier à venir. Geneviève observe le public. Certaines têtes sont familières. Elle reconnaît là médecin, écrivain, journaliste, interne, personnalité politique, artiste, chacun à la fois curieux, déjà converti ou sceptique. Elle se sent fière, fière qu'un seul homme à Paris parvienne à susciter un intérêt tel qu'il remplit chaque semaine les bancs de l'auditorium. D'ailleurs, le voilà qui apparaît sur scène. La salle se tait. Charcot impose sans trouble sa silhouette épaisse et sérieuse face à ce public de regards fascinés. Son profil allongé rappelle l'élégance et la dignité des statues grecques. Il a le regard précis et impénétrable du médecin qui, depuis des années, étudie dans leur plus profonde vulnérabilité des femmes rejetées par leur famille et la société. Il sait l'espoir qu'il suscite chez ses aliénés, il sait que tout Paris connaît son nom. L'autorité lui a été accordée et il l'exerce désormais avec la conviction qu'elle lui a été donnée pour une raison. C'est son talent qui fera progresser la médecine. Messieurs, bonjour. Merci d'être présents. Le cours qui va suivre est une démonstration d'hypnose sur une patiente atteinte d'hystérie sévère. Elle a 16 ans. Depuis qu'elle est à la Salpêtrière, en 3 ans, nous avons recensé chez elle plus de 200 attaques d'hystérie. La mise sous hypnose va nous permettre de recréer ces crises et d'en étudier les symptômes. À leur tour, ces symptômes nous en apprendront plus sur le processus physiologique de l'hystérie. C'est grâce à des patientes comme Louise que la médecine et la science peuvent avancer.
Geneviève esquisse un sourire. Chaque fois qu'elle le regarde s'adresser à ses spectateurs avides de la démonstration à venir, elle songe au début de l'homme dans le service. Elle l'a vu étudier, noter, soigner, chercher, découvrir ce qu'aucun n'avait découvert avant lui, penser qu'aucun homme n'avait pensé jusqu'ici. À lui seul, Charcot incarne la médecine dans toute son intégrité, toute sa vérité, toute son utilité. Pourquoi idolâtrer des dieux lorsque des hommes comme Charcot existent ? Non, ce n'est pas exact. Aucun homme comme Charcot n'existe. Elle se sent fière, oui, fière et privilégiée de contribuer depuis près de 20 ans au travail et aux avancées du neurologue le plus célèbre de Paris. Babinski introduit Louise sur scène. Submergée par le trac 10 minutes plus tôt, l'adolescente a changé de posture. C'est désormais les épaules en arrière, la poitrine gonflée et le menton relevé qu'elles avancent vers un public qui n'attendait qu'elle. Elle n'a plus peur. C'est son moment de gloire et sa reconnaissance, pour elle et pour le maître. Geneviève connaît chaque étape du rituel. D'abord, le pendule qu'on balance doucement devant le visage de Louise, son regard bleu immobile, le diapason qu'on fait retentir une fois, et la jeune fille qui tombe en arrière, son corps léthargique rattrapé de justesse par deux internes. Les yeux clos, Louise se soumet à la moindre demande, effectue des gestes simples pour commencer. Lève le bras, tourne sur elle-même, plie une jambe en petit soldat obéissant. Puis, elle pose selon les requêtes, joint les deux mains pour prier, lève la tête en suppliant le ciel, imite le crucifiement. Graduellement, ce qui paraissait être une simple démonstration d'hypnose progresse vers le grand spectacle. La phase des grands mouvements, annonce Charcot. Désormais, Louise est à terre, on ne lui ordonne plus rien. Seule, elle s'agite, plie les bras, ses jambes, jette son corps de gauche à droite, se tourne sur le dos, sur le ventre. Ses pieds et ses mains se contractent jusqu'à ne plus bouger. Son visage se tord entre douleur et jouissance. Des souffles rauques ponctuent ses contorsions. Quiconque d'un peu superstitieux croirait à une possession démoniaque. D'ailleurs, certains dans l'assemblée effectuent un discret signe de croix. Puis, une convulsion intime la ramène sur le dos. Ses pieds nus et sa tête prennent appui sur le sol et poussent le reste de son corps en hauteur, jusqu'à former un arc de cercle du cou au genou. Sa chevelure sombre balaye la poussière sur l'estrade. Le dos en U inversé craque sous l'effort. Finalement, au terme d'une crise qu'on lui a imposée, elle se fondre dans un bruit sourd sous les regards abasourdis. C'est avec des patientes comme Louise que la médecine et la science peuvent avancer.
Je m'appelle Thérèse. On m'appelle la tricoteuse. Je déteste ce surnom. C'est idiot, hein.
Eugénie.
Ah, j'ai entendu, ouais. T'es arrivée quand ?
Hier. Thérèse hoche la tête sur son lit, plusieurs pelotes de laine et quelques châles soigneusement pliés. La femme porte l'une de ses créations. Un châle épais et noir, aux mailles impeccables. Thérèse doit avoir la cinquantaine, peut-être même un peu plus. Sous un foulard qui lui habille la tête, quelques cheveux gris s'échappent au-dessus du front. Sa taille épaisse et tendre, son visage bourru mais serein lui donne un air sage et maternel. Elle semble relativement normale par rapport à d'autres femmes, même s'il faudrait savoir ce qui s'entend par « normal ». Plus simplement, aux yeux de Génie, Thérèse ne présente pas de signes apparents d'affliction. La jeune femme regarde ses mains épaisses tricotées avec des dextérité. Et vous, quand est-ce que vous êtes arrivée ?
Bof, je compte plus. Bah, ça fait plus de 20 ans, hein, pour sûr. Hein.
Plus de 20 ans ?
Eh ouais, ma petite, mais je l'ai mérité. Regarde.
Thérèse pose ses accessoires de tricot et retrousse la manche droite de son gilet jusqu'à l'épaule. Sur l'extérieur du bras, dessiné à l'encre verte, abîmé par le temps, un cœur percé d'une flèche, à Momo. Thérèse sourit.
Je l'ai poussé dans la Seine. Oh, mais il l'avait cherché, hein. Ce salaud, il est même pas mort.
Thérèse ramène sa manche sur son tatouage et déplie le vêtement jusqu'au poignet. Elle repend son tricot tranquillement.
Oh, je l'aimais à en crever. Personne voulait de moi, j'étais vilaine, boiteuse, depuis que mon ivrogne de père m'avait poussée. Oh, je pensais que j'étais foutue. Et là, un jour, j'ai Maurice qui débarque. Me chante la belle vie, me prend dans ses bras. Pas une ni deux, me v'là sur le ruban. Tous les soirs. Ah, les baffes tombent quand je ramène pas assez de sous. Mais je m'en fous. C'est pas pire que ce que me mettait mon père, hein. Et puis, je l'aime, Maurice. 10 ans de cette vie. Pas un soir où on me voit pas rue Pigalle. Pas un soir où je me prends pas un coup. Momo, un client. Ah, mais quand mon homme m'embrasse, j'oublie tout. Jusqu'au jour où je le surprends. Je le vois monter chez la Claudette. Ah bah mon sang n'a fait qu'un tour, je te jure, hein. Avec tout ce que j'ai fait pour lui, j'ai attendu qu'il sorte. Je l'ai suivi longtemps. Ce saligo, il marchait loin. Au pont de la Concorde, j'ai plus tenu. J'ai couru derrière lui et je l'ai poussé. Il pesait rien, maigre comme un manche à balai.
Thérèse cesse de tricoter et regarde Eugénie en souriant. Un sourire froid qui lui ont ramené les années de résilience et de détachement.
On m'a mis les menottes sur place. Oh, je gueulais, mais je te raconte pas. Mais je regrette pas de l'avoir poussé. Ce que je regrette, c'est de pas l'avoir fait plus tôt. Bon, c'est pas ses coups qui m'ont abîmé, hein. C'est qu'il ait cessé de m'aimer pour une autre.
Et depuis 20 ans, on ne vous a pas laissé sortir d'ici ?
Ah, mais j'ai pas envie de sortir, hein.
Non ?
Ah, non ! Tu vois, je me suis jamais sentie aussi tranquille qu'entourée de folles. Les hommes m'ont maltraitée, mon corps est cabossé, je boite, ma jambe fait mal, j'ai des douleurs à crever chaque fois que je pisse. J'ai une cicatrice qui me traverse tout le sein gauche. On a voulu me le couper au couteau. Ici, je suis protégée. On est entre femmes. Je tricote des châles pour les filles. Je me sens bien. Non, dehors, plus jamais. Tant que les hommes auront une queue, tout le mal sur cette terre continuera d'exister.
In an old cafe, never slept with a dream before you had to go away. There's a bell in the tower, Uncle Ray brought around. Don't worry about the army in the cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Now don't need a cry, baby. And there's wood in the shed. There's a bird in the chimney and a stone in my bed. When the road's washed out, we pass the bottle around and wait in the arms of the cold, cold ground. The cold, cold ground. The cold, cold ground. The cold, cold ground. There's a ribbon in the willow. Tire swing rope and a briar patch of berries taking over the slope. The cattle sleep in the mailbox and we'll never go to town till we bury every dream in the cold, cold ground. 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 Thank you.
box of shells. Blow the roof off the goat barn, let it roll down the hill. The piano is firewood, Times Square's a dream. I thought we'd lay down together in the cold, cold ground. The cold, cold ground. The cold, cold ground. In the cold, cold ground. We'll call the cops on the Breedloves, bring a Bible and a rope, and a whole box of Breville and a bar of soap. Make a pile of trunk ties and burn them all down. Bring a dollar with you, baby, in the cold, cold ground. 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 Take the weather vane rooster throwing rocks in his head. Stop talking to the neighbors until we all go dead. Beware of my temper and the dog that I found. Break all the windows in the cold, cold ground. 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 In the cold, cold ground.
Et puisqu'à tout roman, il faut bien une sorte de montée en puissance, l'apothéose de celui-ci pourrait être donc le titre « Le bal des folles ». Et il faut savoir que celui-ci, « Le bal des folles », a réellement existé à la fin du XIXe siècle. Il était organisé au moment de la mi-carême et de nombreuses personnalités parisiennes aimaient bien s'y rendre, peut-être pour y connaître une certaine forme d'aventure ou un petit peu s'encanailler, je ne sais pas. Alors là, je vois Catherine qui commence à me faire la tête en me disant « Hervé, il faut jamais dire la fin du roman !» Mais non, il faut jamais dire la fin du roman. Serge Chalandeau nous l'a bien dit encore cette semaine.
Oh non, lui, mais... l'aurait dit. Alors justement, c'est l'inverse.
Ah oui, c'est vrai, il voulait
arrêtez
absolument...
Pas de vouloir,
il n'arrêtait pas de vouloir, oui. Oh, c'était drôlement bien quand même. Serge Chalandeau, c'est un mec bien. Mais non, donc ça s'appelle « Le bal des folles », mais la scène que je vais vous lire maintenant n'est pas à la fin du bouquin. Bien, j'en ai assez dit, allons au bal.
Je mets ma robe.
« 18 mars 1885. La nuit est tombée, le long du boulevard de l'hôpital, les allumeurs de réverbères se relayent pour éclairer les trottoirs. La rue est calme en ce début de soirée, excepté au numéro 47. Sur la petite place en retrait de la route, une agitation inhabituelle a pris forme. Des fiacres arrivent par dizaines, contournent le petit rond-point, s'arrêtent un à un. Les portières s'ouvrent et des passagers descendent sur la place pavée. Les silhouettes des couples se sont apprêtées. Un coup d'œil aux parures laisse comprendre qu'il s'agit d'un pari qui n'a pas de mal à se nourrir. Sous l'entrée voûtée, à côté des colonnes, soutenant le linteau sur lequel est gravé le nom de l'hôpital, quelques infirmières accueillent les invités. Certains, familiers des lieux, traversent la cour d'honneur d'un pas assuré. D'autres découvrent les allées et les bâtiments avec une euphorie craintive et curieuse. Dans la vaste salle de l'hôpice, les invités déjà présents patientent. Des appliques murales éclairent le lieu à la décoration modeste. Des plantes vertes et des fleurs bordent les larges fenêtres. Des guirlandes colorées pendent du plafond. Près des portes battantes, un buffet étale pâtisseries, bonbons et petits fours. Les mains se servent avec gourmandise ou en cherchant une liqueur ou une coupe de champagne sans en trouver. Ce soir, les palais doivent se contenter au mieux de sirop d'orgeat ou d'orange. Dès l'entrée en salle, un air de valse accueille les nouveaux arrivants. En face, jugé sur une estrade, un petit orchestre joue avec entrain. Un brouhaha timide et nerveux se joint aux notes de musique. Cette dernière attente finit d'exciter les esprits et d'alimenter les propos.
De quoi pensez-vous qu'elles aient l'air? Croyez-vous que l'on puisse les regarder dans les yeux? L'année dernière, une vieille démente s'est frottée à tous les hommes de la soirée. Sont-elles agressives? Et Charcot sera-t-il présent? Je serais curieuse de voir à quoi ces fameuses crises d'hystérie ressemblent. Peut-être n'aurais-je pas dû porter des diamants. Je crains qu'ils ne me les volent. Il paraît que certaines sont très belles. J'en ai vu des absolument repoussantes. 5 coups de bâton frappés au sol font taire les voix. L'orchestre cesse de jouer. À côté de l'entrée, un petit groupe d'infirmières est rassemblé. À les voir, on se rappelle que le bal n'a rien de commun avec un autre. Les décorations, l'orchestre, le buffet ne permettent pas d'enjoliver la réalité du lieu où l'on se trouve. Un hôpital pour aliénés. La présence des infirmières soulève un sentiment ambigu. On aime à les savoir proches, dans le cas d'un débordement ou d'un écart qui empiéterait sur le bal. On se sent aussi moins seul, moins désœuvré face à ces femmes qu'on côtoiera bientôt et dont on ignore la conduite en public. Même ces aides-soignantes inquiètent. On se dit qu'un écart n'est jamais loin et que l'une peut bousculer d'un moment à l'autre, même si au fond, chacun espère être témoin de ces fameuses crises d'hystérie. À côté des infirmières, un médecin-chef s'adresse à la foule. « Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'hôpital de la Salpêtrière. L'équipe des infirmières, les médecins et le docteur Charcot sont ravis et honorés de vous recevoir pour ce nouveau bal de la mi-carême. Je vous prie d'accueillir celle que vous attendez tous. » L'orchestre reprend sa valse face à un public mutique. Les coups se tendent vers les portes battantes qu'on ouvre. Par couple de deux, les aliénés pénètrent en cortège dans la salle. On s'attendait à voir apparaître des démentes, des maigres, des tordus. Mais les filles de Charcot partagent une aisance et une normalité qui étonnent. On imaginait aussi des costumes grotesques et des airs de bouffonnes. Et l'on se surprend de cette prestance digne des comédiennes de théâtre. Ce sont tour à tour des laitières, des marquises, des paysannes et des pierrettes, des mousquetaires et des colombines, des cavalières et des magiciennes, des troubadours et des marins, des paysannes et des reines. Ces filles-là viennent de tous les secteurs confondus. Elles sont hystériques, épileptiques et nerveuses, jeunes et moins jeunes, toutes charismatiques, comme si autre chose que la maladie et les murs de l'hôpital les distinguaient. Une manière d'être et de se placer dans le monde. À mesure qu'elles avancent, on s'écarte sur leur passage. On cherche un défaut, une tare. On remarque un bras paralysé sur la poitrine, des paupières qui se referment un peu trop fréquemment. Mais ces aliénés offrent un spectacle de grâce surprenant. Mis en confiance, les corps des invités se détendent. Peu à peu, les murmures reprennent, des rires éclatent. On se bouscule pour voir de plus près ces animaux exotiques, car c'est comme si on était dans la cage du Jardin des Plantes, en contact direct avec ces bêtes curieuses. Pendant que les aliénés prennent place sur la piste ou sur les banquettes, les invités se relâchent et gloussent. S'esclaffent et crient l'homme comme lorsqu'ils effleurent la manche d'une folle. Et si on venait à entrer dans cette salle de bal sans en connaître le contexte, on prendrait pour fous et excentriques tous ceux qui, ce soir, ne sont pas censés l'être. Le brouhaha se mêle aux notes de violon et de piano. Des rires éclatent de chaque côté, on tape des mains et des pieds sur le parquet. C'est une foule bigarrée et étrange, semblable à une fête de carnaval populaire, où les bourgeois semblent venus moins pour célébrer l'esprit festif que pour rire des villageois déguisés. La fête n'est pas la même pour tous. D'un côté, de jeunes femmes costumées qui s'exécutent avec justesse, les pas de danse appris ces dernières semaines. De l'autre, des spectateurs qui applaudissent, totalement immergés dans ce spectacle, comme Pierre dans l'eau. Circulant, elle aussi parmi la foule, tout de noir vêtu, des infirmières distribuent aux aliénés de petits verres de sirop. Certaines se plient aux ordres, d'autres repoussent le verre d'une main, refusant d'être vues comme des malades de tant de cette soirée. Au pied des fenêtres, assises sur des banquettes, de vieilles démentes semblent indifférentes à l'agitation générale.
Lorsque l'on remarque pour la première fois leurs joues creuses et leurs regards hagards, un mouvement de recul s'empare des spectateurs. À les voir impassibles au milieu de ce bal pittoresque, on les croirait presque mortes. Dans la foule, une comtesse circule entre les invités, agitant un éventail qui fait voler les boucles de sa frange. Elle évoque, à qui veut bien l'entendre, sa fortune, décrit le château qu'elle possède en Ardèche, s'inquiète qu'on lui vole son collier en rivière de diamants. Plus loin, une gitane aux traits épais, la tête recouverte d'un foulard, à la bouche maquillée, propose aux inconnus de lire leur avenir dans leurs paumes. Puis elle s'arrête, saisit des mains, prédit un futur sous les gloussements nerveux et poursuit son chemin. Une Marie-Antoinette frappe sans rythme sur un tambour qu'elle tient accroché autour de sa taille. Des enfants maigres et pâles, déguisés en pierrots, empoignent des friandises au buffet et détalent entre les invités surpris de voir de si jeunes internés. Une sorcière, dont la cape traîne par terre et le chapeau pointu paraît trop grand pour elle, balaye d'un air concentré les miettes et la poussière au sol, basculant, sans s'en rendre compte, tous ceux qui se trouvent sur son passage. Sur l'estrade, où joue l'orchestre, une aliénée a pris la place du pianiste. Déguisée en laitière, elle observait l'instrument depuis le début du bal. Jugeant le musicien mauvais, elle décida de prendre sa place. À la vue de cette folle qui escaladait l'estrade et s'approchait de lui, l'homme avait blêmi et aussitôt cédé son siège sans broncher, comme si c'était le diable qui l'accostait sous les rires d'un public hilar. Supervisée par une infirmière au pied de la scène, la laitière tapote sur les touches blanches et noires au gré d'un air qui n'appartient qu'à elle, perturbant la mélancolie que les autres musiciens tentent encore de jouer. Au milieu de la foule, un cri s'élève. Sur la piste, on s'écarte brusquement, en cercle, et un « Oh !» de stupeur parcourt l'assemblée. L'orchestre a cessé de jouer, excepté la laitière qui continue de faire sonner faux le piano. Au sol, une folle, sur le dos, frotte ses pieds contre le parquet et se meut avec douleur, tordue par les contractions dont on ne saurait dire d'où elles proviennent. Tandis que des infirmières accourent, un murmure de voix captivées commente la scène. À l'aide d'internes masculins, le corps agité de la folle est transporté sur une banquette sous l'œil fasciné du public. Étendu sous une fenêtre, l'aliéné continue de crier d'une voix rauque. Sans attendre, un interne place deux doigts, l'index et le majeur au niveau de l'ovaire et appuie sans ménagement. Peu à peu, les cris diminuent. Les membres se détendent et la folle retrouve son calme. On s'exclame, on rougit, on applaudit, on se décrispe, et tandis que l'orchestre peut reprendre une nouvelle valse avec entrain, Eugénie et Théophile passent les portes battantes de l'entrée sans regarder en arrière.
Eh bien, merci Hervé et Catherine, merci pour ce bal des folles de Victoria Mas. C'est édité, Hervé,
chez... C'est édité chez Albin Michel.
Chez Albin Michel. Bien, nous nous retrouverons donc le mois prochain.
Eh oui.
Et alors, le mois prochain, il va y avoir quelque chose de spécial, Hervé.
Ah oui, en effet, nous enregistrerons notre émission en public du Grenier de Vineuil.
Voilà, les Greniers de Vineuil, dans la société d'intérêt collectif qui se trouve route de Chambord à Vineuil, ce grand bâtiment d'il y a un siècle ou deux, dans lequel se passent des tas d'activités. Et nous serons l'une des animations des Greniers de Vineuil, nous y enregistrerons notre émission.
Voilà, voilà.
Au mois prochain.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir Catherine.